9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
À la radio, comme à l'instant, on vous entend tous les jours sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre avec l'ami Jean-Luc Lemoine. À la télé, on vous connaît notamment pour Secrets d'Histoire, Le Village préféré des Français, Le Monument préféré des Français, je ne vais pas tout citer, et de plus en plus de fictions. On va en reparler car il y en a une qui arrive mardi, sera le 18, elle s'appelle Belfond, mais là votre actu, elle se passe en librairie, c'est ce livre, Les Secrets de, trois petits points, l'Élysée, nouvelle collection que vous lancez consacrée au lieu de pouvoir chez Plon. Alors, les secrets de l'Élysée, plutôt les secrets de, comme c'est les lieux de pouvoir, vous n'allez pas faire ensuite Matignon, le Quai d'Orsay et toutes les sous-préfectures.
Non, mais c'est au fond dans la continuité d'une émission que je présentais l'été qui s'appelait « Si les murs pouvaient parler ». Donc, si les murs de l'Élysée, mais j'avais fait Buckingham Palace, donc peut-être pour le couronnement, après le couronnement du roi Charles III, dont on a appris hier que ce serait le 6 mai, prochain, eh bien, oui, je pourrais faire les secrets de Windsor, plutôt m'intéresse davantage que Buckingham.
J'allais vous demander ça, je me disais, est-ce qu'il va faire ça, ou alors le 10 Downing Street, qui est la résidence des premiers ministres anglais.
C'est pas très intéressant, si vous voulez. C'est intéressant depuis Churchill, raconter dans ce cas-là les coulisses. Il faut des lieux qui racontent comme ça, sur plusieurs siècles, une véritable histoire.
Moi je sais lequel ça va être, le prochain alors.
C'est quoi?
Ça va être le Kremlin, le bunker secret de Poutine, les tsars, Rasputin. C'est une histoire incroyable.
Non, c'est une histoire incroyable. Bon, Rasputin, c'est plutôt Saint-Pétersbourg, mais c'est vrai qu'au Kremlin, il s'est passé énormément de choses, et notamment Catherine, Poutine vit dans le palais de Catherine II, hein. Donc il y a là plein de choses à raconter. Il y a aussi la Maison Blanche, parce qu'on est à mi-mandat, il va y avoir plein d'événements, Joe Biden, pas Joe Biden pour la prochaine fois. Donc on commence cette série avec mon éditrice Lise Boel sur les lieux de pouvoir fascinants. Au fond, ces murs me permettent de raconter la vie des gens. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est les gens qui ont vécu. Ça commence par le comte d'Evreux, à qui le régent lui dit je veux bien vous remettre votre brevet de capitaine des chasses, mais à condition que vous ayez un hôtel particulier digne de me recevoir. Donc lui, il va taper son beau-père qui est Antoine Croizat, qui est quand même un négrier, pardon, mais c'est bien de le rappeler, c'est avec l'argent de la vente d'esclaves quand même qu'on construit le palais de l'Élysée. C'est bien de le rappeler aussi. Et en 1722, c'est un marécage, personne ne veut de cet endroit, on est en dehors des limites de Paris, et y bâtit un hôtel particulier.
Ça démarre assez fort, très belle entame de ce livre, Les Secrets de l'Élysée. Ça démarre comme une annonce immobilière, plein cœur de Paris, quartier Champs-Élysées, Faubourg Saint-Honoré, palais de 11 000 m² de surface habitable, avec cinéma privé abri anti-atomique, sur jardin clos arboré d'un hectare et demi. Ça pourrait coûter combien maintenant à la revente ?
Je sais pas, écoutez, il y a un hôtel particulier comme ça, il y a eu celui des Pozzo di Borgo, c'est rue de Grenelle, rue de Varennes, je sais plus, là où habitait Karl Lagerfeld un moment. Ils l'ont vendu 100 millions d'euros. Alors oui, entre 100 et 150 millions d'euros, je dirais. C'est parce que là,
j'ai fait un calcul. À 20 000 euros du mètre carré, on est déjà à 220 millions. Oui, sans le jardin et sans le bunker.
Ah, l'émir du Qatar serait ravi de le racheter. Mais si vous voulez, il n'est pas à vendre parce que c'est la maison commune des Français aussi.
J'adore. Il me regarde. Tu sais que ça ne m'avait pas échappé.
Oui, hein, je croyais vraiment que vous vouliez vendre les bijoux de famille.
On sait que j'ai pris l'intro au premier degré.
On est dans la sobriété plus totale en ce moment. Non, mais quand même, il y a des limites.
Je vais être sérieux. Oui. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert un personnage grâce à vous. Elle s'appelle Bathilde, je ne me trompe pas.
Oui, Bathilde d'Orléans.
Bathilde d'Orléans, je donne ses dates. 1750-1822. Déjà, elle était mariée au fils du prince de Condé quand elle avait 19 ans, lui en avait 14. Déjà, je ne savais pas que ça se faisait dans ce sens-là.
Oui, oui, oui.
Je pensais que c'était tout le temps l'homme le plus âgé. On en parle parce que elle était la nièce du roi Louis XVI, je l'ai appris grâce à vous. Le roi lui vend l'Élysée, qui à l'époque s'appelait l'hôtel d'Evreux, ce que vous venez de raconter. Et cette Bathilde va y faire des séances de spiritisme. Et là, c'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire.
Mais c'est incroyable. Mesmer, par exemple, avec le fluide universel, avec toutes ses grandes idées. Elle attirait tout ce qui était la chiromancie, les voyages. Mais surtout Mesmer qui faisait le magnétisme. Ouais. À l'époque, on croyait aux sciences occultes. Et donc, elle, dans son salon, elle ne faisait que ça. Donc, il faut penser que les salons de l'Élysée, c'était quand même un endroit où on prédisait l'avenir, on faisait des expériences hallucinantes pour magnétiser les gens et leur faire deviner.
Et elle recevait des dingos quand même. Elle recevait une prophétesse, je vous citais, elle s'appelait Catherine Théo. Elle écoutait ça. Simple religieuse d'origine périgourdine qui prône le rejet du catholicisme au profit de la parole de l'Évangile, à demi démente, Elle se mortifie de toutes les façons possibles, en mettant des cailloux dans son lit, des pointes dans ses chaussures, de la suie sur ses aliments et même de la chaux vive sur son visage. Oui. Elle était invitée à l'Élysée. Oui. Là, on est chez les fous. Une histoire qui vous a beaucoup, beaucoup plu. De longues pages y sont consacrées, mais tout le monde ne connaît pas son histoire, celle du président Félix Faure. Qui était-il ? Je vous laisse raconter sa fin, puisqu'il est mort à l'Élysée, si j'ose
il
dire,
est mort
dans l'exercice de ses fonctions.
On a longtemps raconté, parce que tout le monde s'en est moqué, d'épecta, c'est-à-dire au moment de l'acte d'amour avec...
Au moment de l'orgasme. De l'orgasme. Le cœur qui s'arrête au moment de l'orgasme.
Exactement, avec Marguerite Stenel. C'est faux, il est mort d'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a les mots célèbres de Clémenceau, il se voulait César et il est mort Pompée. Le prêtre arrive, où est le président a-t-il toujours sa connaissance, pensant qu'il était, est-ce qu'il est mort ou vivant, a-t-il toujours sa connaissance ? Non, elle est sortie par l'escalier de service. Ouais. Donc tous les mots sont Marguerite Stenel qu'on appelait la pompe funèbre.
Vous dites qu'il est pas mort d'expectation. Je ne savais pas. Alors, son dernier visiteur, c'était Albert Ier de Monaco.
Et donc on a retrouvé dans les archives qu'en réalité il a eu un coup de sang. Il était vraiment, il a eu fait une crise d'apoplexie.
Il faut dire pourquoi.
Parce qu'Albert Ier vient d'abord pour demander la révision du procès d'Alfred Dreyfus. Parce que le prince et la princesse de Monaco étaient à fond pour le capitaine Dreyfus. Et il demande même, il dit qu'il a les preuves de l'innocence de Dreyfus grâce au Kaiser Guillaume II, le Kaiser d'Allemagne, avec qui on va entrer en guerre quelques temps
après. Oui, parce qu'on disait qu'il avait trahi au profit de l'Allemagne.
Au profit de l'Allemagne, exactement. Et donc l'idée même de faire une rencontre entre Félix Faure et le Kaiser Guillaume était insupportable au président de la République française. Et donc il a un coup de sang, il a une crise d'apoplexie et il meurt. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a Marguerite Stenel qu'on a vite évacuée parce qu'évidemment, ça ne se faisait. Mais il est mort dans le salon du mobilier d'argent qui est une très jolie salle. Et d'ailleurs, ça fera dire plus tard au général de Gaulle qui détestait ce salon en disant c'est des restes d'un lupanard. Et donc, ça sent trop le lupanard. Et il détestait l'Élysée, le général de Gaulle. Ouais. Il voulait absolument partir. Il voulait l'école militaire, les Invalides. Il voulait, sinon, le château de Vincennes. Ouais. Il rêvait de mettre la présidence au château de Vincennes.
Vous le connaissez, ce petit salon. Vous êtes souvent allé à l'Élysée.
Oui. Ben, tous les visiteurs, même pour les journées du patrimoine, connaissent ce salon au mobilier d'argent qui a été voulu par Caroline Murat, qui est sans doute l'une des femmes. C'est pour ça que j'aime l'Élysée, parce que c'est un palais de femmes. Ce sont les femmes qui ont fait la Pompadour, Bathilde d'Orléans et Caroline Murat, qui a vraiment aménagé. C'est un très joli salon. Et c'est dans ce salon que Napoléon Bonaparte a abdiqué le 22 juin 1815, au lendemain de la défaite de Waterloo.
Je me rends compte qu'on n'a pas encore parlé des sous-sols, qu'on n'a pas encore parlé des chiens, qu'on n'a pas encore parlé du fort de Brégançon et qu'on n'a pas encore parlé des fictions incarnées par Stéphane Bern. Ça tombe bien, il y a une deuxième partie dans Culture Média. Bruno Donnet aussi nous rejoint. À tout de suite. On est avec Stéphane Bern, on revient à l'Élysée, ça sera beaucoup plus joyeux. Il y a aussi des histoires secrètes, beaucoup d'histoires secrètes dans ce livre.
On a raconté qu'il y avait c'était un lupanard et qu'il y avait, et en fait non, parce que Mathilde d'Orléans, après la Révolution, elle a loué à des Flamands les ovines et eux ont plutôt, c'était un endroit où on faisait des jeux, c'était cabaret, c'était plutôt, et ils louaient des appartements. D'ailleurs, le petit Alfred de Vigny. Ouais. Jouait là dans les jardins de l'Élysée, en fait.
J'ai appris quelque chose. Vous venez du Luxembourg, secret pour personne. Et je découvre que pour accéder au fort de Brégançon, qui est la résidence d'État officielle depuis 68 des chefs d'État, donc à Bormes-les-Mimosas, pour y accéder, il faut emprunter un chemin situé sur la propriété des grands-ducs du Luxembourg.
Oui, c'est le chemin du grand-duc, comme on appelle
Que se passe-t-il en cas de conflit France-Luxembourg ?
Il n'y a pas de conflit entre la France et le Luxembourg, d'abord, parce que moi, je serais écartelé, je serais bien embêté, étant français et luxembourgeois. Non, ça se passe bien, mais c'est vrai que la plus belle plage autour du fort de Brégançon, c'est celle de Cabassan, c'est celle des grands-ducs de Luxembourg. Mais ça, vous savez, c'est drôle, le général de Gaulle, encore lui, détestait le fort de Brégançon. Il y a dormi une nuit. C'était pour aller justement à l'anniversaire du débarquement de Provence. Et il a été piqué par les moustiques. Il trouvait lui qui aimait pourtant, parce que c'est très monacal, j'allais dire, c'est vraiment une forteresse.
Hein. Vous êtes allé ?
Donc, il m'est arrivé d'y aller au temps du président Nicolas Sarkozy. Les chambres, c'est vraiment un lit de fer avec une armoire. C'est vraiment, c'est un peu colonie de vacances, vous voyez. Parce que j'ai dû me changer dans une une des chambres à l'époque.
Et je vous assure. Pourquoi vous deviez vous changer dans une chambre au fort de Brégançon?
En fait, j'avais.
Vous avez trop dit ou pas assez,
non,
Stéphane Bern. Vous êtes mis dans la panade tout seul.
Parce que Carla, à l'époque, m'a dit viens, on va se baigner. Donc je me changeais pour mettre un maillot de bain. Ça paraît normal, non? Mais c'est une maison, vraiment, c'est tout simple. Ça n'a rien de luxueux, contrairement à l'Élysée. Mais ce que j'aime, voyez-vous, aujourd'hui à l'Élysée, je vais te dire un mot quand même sur les aménagements qui sont les plus importants, je crois, depuis Claude Pompidou avec Brigitte Macron, ce qu'elle a réalisé avec Hervé Lemoine, le président du Mobilier National, c'est de faire en sorte que ce soit une vitrine des designers et des savoir-faire français. Donc vous avez tous les grands créateurs, Hubert Le Gall, Hervé van der Straten, tous les jeunes qui aujourd'hui sont à la pointe du design, ouais, qui font des meubles et qu'on expose là. Et alors, je ne reconnais plus mes fauteuils Louis XV, si ouais, vous voulez, mais parfois, je dis en m'amusant, je ne sais pas où m'asseoir ici. Mais c'est très beau à voir.
Incroyable. Hervé van der Straten, je raconte une histoire personnelle. Ouais. J'ai écrit le premier papier sur lui dans Actuel, en 85 ou en 86.
Vous avez vu le carton qu'il fait aujourd'hui.
Dingue.
C'est une star mondiale.
Je sais. Tout à fait autre chose. J'ai fait aussi plein de papiers sur des gens qui sont devenus chauffeurs-livreurs. Hein. ou rien du tout. Et c'est un beau métier chauffeur-livreur. Je ne l'oublie pas. Vous serez à l'affiche, Stéphane Bern, d'une fiction. Ça s'appelle Belfond. Ce sera mardi prochain, le 18, dans laquelle fiction, laquelle vous incarnez un procureur. Procureur très sévère, jusqu'au jour où un innocent se suicide en plein tribunal. Il décide de mettre sa carrière en pause. Racontez la suite rapidement parce que j'ai plein de questions encore pour vous.
Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il est pratiquement en divorce avec la justice. Il s'est complètement marié avec la justice parce que son père a voulu se faire de lui un procureur de père en fils. Comme ça, on donne tout. Tout d'un coup, il commet cette erreur et il remet en question son histoire d'amour avec la justice. Et là, sa sœur a un problème. Il l'a plus parlé à sa sœur depuis des années, mais sa nièce vient le chercher et il va résoudre. Il n'est donc plus procureur, il est en vacances de justice et il va aider à résoudre une enquête. Et je suis entouré, ce que j'aime dans cette fiction, et je tourne la suite dans quelques jours, donc je suis encore plus heureux de retrouver une bande de jeunes, trois jeunes stagiaires, et donc on est dans l'idée de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? C'est quoi la justice? C'est quoi la présomption d'innocence? Et donc tous ces concepts deviennent vraiment réels quand en même temps il y a de l'action, parce qu'il faut résoudre une enquête, et en même temps vous transmettez à des jeunes qui me challengent vraiment, qui se moquent de moi pendant toute la série. C'est assez drôle.
Alors vous avez répondu à une partie de ma question, ça s'appelle Belfond. Et Belfond, quand on a un nom comme ça, sans donner davantage, c'est que c'est une série. Ça sera une série ou c'est un unitaire et vous attendez de voir les audiences?
Alors, c'est un unitaire.
Mais là, si vous tournez le deuxième.
Mais je tourne le deuxième en même temps, donc juste quelques jours après. Donc je pense que ça sent bon la suite, si vous voulez. Donc j'espère qu'il y aura du monde pour regarder mardi. Écoutez, au fond, ce qui est formidable, c'est que j'ai touché avec... j'étais lieutenant de gendarmerie dans Meurtre en Lorraine. Dans Pour l'honneur d'un fils, cet été, j'étais un commandant d'une base aérienne. Et là, maintenant, je suis un procureur, mais qui a des problèmes avec la justice. Mais vraiment des problèmes. Et donc... J'aime. Il y a toujours l'uniforme, ça c'est le point commun. Ça aide au début, puis après je l'enlève très vite, vous allez voir. J'ai pas besoin d'une chambre pour me changer, mais vous allez voir. J'enlève la robe de procureur de la République et j'ai adoré ce rôle. Alors évidemment, se voir soi-même, c'est sans phare, c'est très cru. Vous allez voir, c'est la lumière, mais c'est des enquêtes sur des sujets d'actualité.
C'est très cru. La lumière est très crue ou les propos sont très crus?
Non, tous les propos aussi sur les thèmes. Là, c'est un thème sur évidemment, il y a des histoires très très dures, mais qui racontent notre société.
Ici, vous savez qu'on est une émission média, on aime lutter contre les faits. News, vous parliez de ce téléfilm Pour l'honneur d'un fils, dans lequel vous incarnez un ancien pilote de chasse. Vous êtes fait chahuter parce qu'une séance, une séquence marquante, vous tuez un homme à l'aide d'un drone piloté depuis votre smartphone. Il y a eu beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux et vous dites que c'est réaliste.
C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé de faire beaucoup de bêtises avec des drones, parce que dans toutes les émissions Secret d'Histoire, il y a des drones.
Non, mais j'ai pas tué quelqu'un.
Non, j'ai pas tué quelqu'un, mais je l'ai renvoyé sur... J'ai failli le renvoyer sur une vache un jour. Et donc, j'ai bien vu qu'avec par mes erreurs, évidemment, mais qu'après tout, de façon tout à fait voulue, je pouvais envoyer un drone sur quelqu'un. Alors, c'est plus difficile, je le reconnais, de le faire avec les mains dans le dos. Mais bon, on peut imaginer qu'il y a c'est le principe du boomerang. Donc, non, c'est assez...
Encore plein de questions pour vous. Vous préparez un autre projet, je ne me trompe pas, une fiction sur la royauté britannique?
Ça, c'est on a écrit avec mon ami Franck Ferrand toute une fiction qui se passe dans une monarchie. Alors, le problème, c'est que là, maintenant, ça a pris des proportions énormes. Il y a des chaînes qui sont intéressées. Et donc, on écrit avec il y a des scénaristes américains qui s'en mêlent parce que ça va devenir une chose peut-être internationale. Ça me dépasse un peu. Moi, j'ai juste écrit sur un coin de bureau, si vous voulez, une fiction qui se passe en mettant toutes les histoires que j'ai entendues depuis des années. Ça fait 30 ans que je fréquente les cours. Et donc, j'ai raconté plein d'histoires assez tordantes et assez croustillantes.
Et là, j'ai lu ça dans Marie-France, le dernier numéro de Marie-France. Aujourd'hui, il est ruiné, ayant investi tout son patrimoine pour en acheter un autre. Rassurez-nous, Stéphane.
Non, mais vous savez, les gens n'ont plus de sens de l'humour. Je dis, je me suis ruiné. Ça ne veut pas dire que je suis ruiné. Ça veut dire que quand vous dites, je me suis ruiné, tout ce que je gagne, je le mets dans mes vieilles pierres.
C'est comme quand on dit, ça m'a coûté un bras.
Voilà,
on a toujours ces deux bras.
On est d'accord. Mais si vous voulez, à l'écrit, maintenant, les gens prennent tout. J'ai dit, je ne suis pas dans le dire, je suis dans le faire. Et le journal titrait, je suis dans le faire, F-E-R. Je me dis, mon Dieu, je deviens sidérurgiste. J'adore. Mais oui, les gens. Vous ne pouvez plus dire quelque chose à l'oral, les gens ne comprennent plus le deuxième degré, ou en tout cas la mesure, la nuance, voilà.
Ça, c'est vraiment une nouvelle collection que lance Stéphane Bern, c'est une info, c'est chez Plon. Le premier, si j'ose dire, c'est pas un numéro, le premier tome s'appelle Les Secrets de l'Élysée. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane, et on vous écoute cet après-midi dans Historiquement.
Et il y a Elsa Zilberstein qui vient, invitée spéciale, pour parler avec Olivier Dahan de Simone Veil. Évidemment, les femmes qui ont changé la vie des autres femmes.
Son biopic. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. Culture Média continue, évidemment. On va retrouver Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. Notre invité, c'est l'humoriste, comédien et désormais réalisateur Malik Bentala. C'est son premier film derrière la caméra et devant aussi Jack Mimoun et Les Secrets du Valverde. Et puis dans Les Indispensables, musique avec Stéphanie Loire, et Jean Z va nous parler d'un jeu vidéo de construction capable de détecter la dyslexie. Je fais attention à bien prononcer ce mot. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur